Voilà. Alors, je vais parler du coup aujourd'hui de l'invention des cathares. Donc, je tiens à préciser plusieurs choses. Déjà, je ne suis pas expert de la question. J'ai travaillé sur l'histoire médiévale, mais plus tard. Et donc, je ne vais pas rentrer sur tous sur les détails. Je vais vraiment expliquer ce qu'est en fait l'état de la recherche actuellement, tel que j'ai pu la voir par ceux qui travaillent dessus, parce qu'on a une chance à Paul Valéry. C'est qu'on a énormément de professeurs qui retravaillent sur la question de l'hérésie au Moyen-Âge actuellement. La première partie est énormément empruntée aux articles autour d'Oué Brun, qui a travaillé tout sur la. Oué Brun, Oué son prénom, Brun son famille, qui a travaillé sur les cathares en Allemagne et l'invention du terme cathare. Et la seconde partie est surtout basée sur les cours reçus par Aïssa Trivelonne et sur les articles publiés dans un numéro de l'Histoire, entre autres, et sur quelques ouvrages. Le numéro d'Histoire, je l'ai apporté, j'en ai un, je peux le prêter éventuellement si ça intéresse des gens. Donc, avant de présenter le sujet, juste pour préciser avant qu'on crie à Arrou, ici, le but, c'est pas de nier la croisade, l'inquisition ou les bûchers. Ça a bien eu lieu, il y a eu des, il y a, il y a eu, le, la comté toulousain a subi tout ça, il y a eu des morts. La question n'est pas du tout ici. Il n'y a pas de négationnisme de tout ça. L'idée, c'est vraiment de se poser la question de est-ce que le terme cathare recouvre réellement une idéologie derrière? Est-ce que ça a vraiment un sens de parler de cathare à Toulouse et ailleurs en Europe à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait vraiment une secte organisée? Et du coup, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la réponse est non. Alors, ce travail, il ne s'est pas fait à partir de rien. Pendant des années, ça, effectivement, on n'a pas remis en question l'existence du cathare. Là, c'est une représentation d'hérétique qui demande pardon, alors, vraisemblablement au pape. Tu vois, pour une requête. Et ça, depuis les années 90, à peu près, qu'on remet en cause la perception qu'on avait des hérésies médiévales dans leur ensemble. Ça a été beaucoup fait à l'Université de Nice, entre autres par Monique Zerner, qui a dirigé l'ouvrage Inventer l'hérésie. C'est fait en fait parce qu'on a après examiné les sources et on s'est aperçu que beaucoup de sources avaient été recitées telles quelles sans s'apercevoir qu'en fait on recitait des analyses qui étaient faites avant que l'histoire ne soit réellement une science, ce qui fait que ça a incorporé énormément, une science humaine bien sûr, mais tout de même, et du coup ça a incorporé uniquement énormément d'erreurs parce qu'il n'y avait pas toute l'analyse des sources, certaines d'entre elles. Et pour les cathares, c'était clairement le cas. Et donc, c'est ça qui a fait qu'on a beaucoup réexaminé cette question. Donc, aujourd'hui, je vais déjà essayer de vous expliquer comment a été inventé le terme cathare et comment on a pu définir ce terme, le réinventer et lui donner un essor suffisant pour qu'il nous parvienne jusqu'à maintenant. Puisque ce terme est quand même bien du Moyen-Âge, c'est pas rien. Après, je vais vous parler de comment des déclenchements à la croisade albigeois et du renforcement du pouvoir anglical. Je ne vais pas parler de la croisade en elle-même, je tiens à préciser, puisque ce n'est pas vraiment le sujet et ce serait très long et très compliqué pour pas grand-chose pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et enfin, je parlerai donc de la patrimonialisation du mythe cathare et entre autres de Carl Schmitt, qui est intéressant pour notre sujet. Mais je reviendrai plus tard. Et du tout aussi de comment le catharisme est devenu un vrai mythe régionaliste. Donc, le catharisme, c'est le mot cathare lui-même vient de l'antiquité chrétienne, et c'est un terme en fait, qui vient du grec, qui signifie pur. Ça a désigné en fait plusieurs courants de pensée religieuse, et dès le départ de la religion chrétienne, il y a eu cette volonté de définir le dogme chrétien, de le définir, de tout trouver des gens dissidents et de les condamner, de les combattre. Et à l'Antiquité, il y a eu trois hérésies, du coup, qui ont été désignées comme telles, qui recouvraient ce terme cathare. Donc il y a d'abord les Novatiens. Les Novatiens, ce sont les adeptes de l'évêque du même nom, c'est pas difficile à retenir, qui refusaient l'idée que l'Église puisse permettre de faire pénitence pour ses péchés. Pour eux, Dieu est le seul juge, et donc seule une vie exemplaire, une vie pure donc, permettait d'accéder au salut. Et du coup, on les a appelés les purs, les cathares. Les autres, c'est les manichéens. Alors les manichéens, c'est pas vraiment une hérésie chrétienne, c'est une religion à part. qui a sa cosmogonie et son prophète, Mani. Et du coup, c'est une religion dualiste qui part du combat entre le principe du bien et le principe du mal, d'où notre adjectif. Et c'était vu comme très dangereux par les pères de l'Église chrétienne, parce qu'il y avait des proximités avec le christianisme et que beaucoup de chrétiens étaient tentés de rejoindre le manichéisme, ce qui, du coup, évidemment, ne convenait pas au chef de l'Église chrétienne. Parmi les manichéens, divisés en différents groupes, et un des groupes les juifs les plus dangereux était surnommé les purificateurs, donc Katharistai. Enfin, on a les montanistes, qui sont adeptes de l'évêque mentant, et ce sont en fait des ascètes persuadés de l'imminence de la fin des temps. Donc, c'est au nom de cela qu'ils mènent une vie extrêmement rude, extrêmement pleine de privations. Sauf que pour le coup, eux, leur nom ne vient pas réellement du mot pur. C'est une déformation qui est venue après. En fait, ils étaient surtout présents d'une région de Turquie actuelle qu'on appelle la Phrygie. Ils vont les appeler ceux de Phrygie, Kataphrygi. C'est pas la bonne prononciation en grec, mais c'est dans le latin. Donc, vous imaginez bien que ce terme, il n'est pas venu directement. Ces trois hérésies-là ont disparu à l'époque antique. On n'a plus de sources, elles ont été combattues avec cette efficacité, à part les manichéens, bien sûr, mais qui n'étaient pas présents dans l'Occident médiéval, qui étaient présents dans les régions manichéennes, simplement, donc orientales. Et pour que ce mot ressurgisse au Moyen-Âge central, il a fallu qu'il soit redécouvert et qualifié à de nouveaux groupes. Alors, c'est ici qu'intervient Egbert de Schönau. Alors, Egbert de Schönau, c'est un moine et un hérésiarque, c'est-à-dire un spécialiste de l'hérésie. Et c'est quelqu'un qui, du coup, a beaucoup étudié l'hérésie, mais il ne faut pas imaginer quelqu'un qui a étudié l'hérésie comme on l'imaginerait aujourd'hui, quelqu'un qui serait allé comparer les hérésies de son temps, qui serait allé discuter forcément avec tous les dogmes qu'il y avait à son époque. C'est quelqu'un qui a énormément lu des ouvrages de pères de la religion chrétienne qui condamnent l'hérésie. Ce qui est une différence importante. Et il se trouve qu'en 163, il participe même domine un tribunal ecclésiastique à Cologne, où en fait on juge des gens qu'on estime être dissidents et ennemis de cette foi, de la foi dominante. Alors, faut pas imaginer un groupe vraiment dissident avec un dogme bien établi. Déjà à ce moment-là, on ne sait même pas quel est leur dogme, pour lequel ils sont ennemis. Et il y a ce conflit a toutes les apparences d'un conflit de pouvoir entre les moines représentés par Egbert et les chanoines, en fait. Et du coup, pour essayer de comprendre ce groupe qui essaie de condamner en masse, parce que condamner l'un après l'autre pour être hérétique, alors on n'a même pas défini pourquoi c'est hérétique, c'est très compliqué, il va se pencher dans les ouvrages de Saint-Augustin et condamner les trois hérésies antiques qu'on a vues avant. Et c'est avec ces trois hérésies antiques qu'il va fonder le mot cathare et qui va donc pouvoir dire que tout ce groupe-là, ce sont des cathares, c'est un seul groupe, et ce sont les hérétiques, ces hérésies antiques. Et on n'a rien, il n'y a pas de définition du dogme à ce moment-là. C'est juste ces gens-là sont cathares. Et du coup, ceci permet les premiers bûchers. Alors, c'est pas vraiment le bûcher de cathares ici qui est représenté, c'est un bûcher d'Amoricien. Et c'est pas non plus à Cologne, mais c'est l'idée. Et ça permet de condamner le groupe entier, en une seule masse, de faire une bonne fournée de bûchers, en fait. Et ça permet également à Egbert d'alerter sur le danger que représente ce groupe dissident, qui désigne lui comme dissident, bien sûr, en disant en fait que c'est pas seulement une hérésie, c'est la fusion de trois hérésies antiques qui ont dû être combattues par les pères de l'Église eux-mêmes. Juste pour précision, avant de passer à ça, le fait que Egbert aille vers les pères de l'Église, c'est normal à son époque. C'est une manière dont on avait pensé au Moyen-Âge. Si vous voulez comprendre le monde, ce n'était pas encore la science moderne, loin de là. En fait, on se penchait dans les ouvrages saints et la Bible, et on estimait que tout avait été dit dans ces ouvrages-là, que toutes les vérités avaient été révélées. Il suffisait donc maintenant d'aller piocher dedans et qu'on pouvait comprendre le monde avec, en interprétant un peu, bien sûr, et des fois en forçant un peu la réalité à rentrer dans le cadre. Donc il a fait œuvre d'homme de connaissance de son époque, mais des connaissances de l'époque. Alors, bien sûr, le simple fait qu'Albert désigne l'existence de cathares, ça ne suffit pas à ce que le mot cathare s'impose plus loin de Cologne. Et il y a plusieurs événements pour ça, et un des premiers, ça va être l'arrivée d'Hildegarde de Bingen, donc qui est une femme qui a été canonisée après sa mort et qui a été atteinte de qui avait des visions, qui bien sûr était supposée venir de Dieu. Aujourd'hui, elle est surtout connue parce qu'elle sert d'argument à différentes pseudomédecines avec des cristaux ou des fois l'homéopathie. Avec des cristaux ou des fois l'homéopathie aussi. L'homéopathie, c'est revendiqué dans des ouvrages d'Hildegard de Bingen, où je ne vois pas le rapport, mais bon. Et en tout cas, elle arrive dans la région de Cologne, et dans la région de Cologne, elle a des visions d'une région qui est menacée parce que les hérétiques pullulent et que la vraie foi donc risque de disparaître. Une région assez catastrophique. Alors, on pourrait penser que ça appuie les dires d'Edberg, mais en fait, pas du tout. Parce que Hildegard a cette vision-là partout où elle va. C'est assez courant dans les visionnaires de l'Église de l'époque, pour dire caricaturer, si vous voulez avoir une suicide en visionnaire, pour voir des hérétiques. Sinon, c'est pas retenu, et vous pouvez même passer pour un fou ou une folle. Et donc, du coup, ce qui pose problème, c'est que dans toute cette vision-là, elle utilise le mot hérétique, mais jamais le mot cathare. Ce qui est embêtant, c'est-à-dire que Dieu lui-même ne juge pas qu'il faut avertir les vivants de l'existence des cathares. C'est 12e siècle, toujours, quelques temps après le tribunal de Cologne. Du coup, Edberg va réagir parce que, en faisant appel à sa sœur, Elisabeth de Schönau, qui elle est moniale et qui elle aussi a des visions où elle voit des hérétiques. Et ces visions-là ne sont uniquement parvenues par la transcription d'Edberg. Et dans ces visions-là, effectivement, le mot cathare apparaît. Donc ça fait effet de preuve. Bon, bien sûr, c'est passé par la plume d'Edberg, donc savoir qui voyait des cathares entre Elisabeth et Edberg, on ne le saura jamais et c'est sujet à caution. Mais en tout cas, ça va permettre surtout d'incorporer toutes les visions du verre de Bingen qui ont beaucoup plus succès de celles d'Elisabeth de Schönau dans la littérature anti-cathare. Et encore aujourd'hui, vous verrez des gens citer Hildegard de Bingen comme ayant tué les cathares, alors que dans toutes ses visions, elle n'a jamais cité le mot cathare. C'est quand même étonnant. Donc, avant de passer à la conclusion, quand même, il y a eu un autre événement qui est arrivé, c'est que lors d'un exorcisme sur une femme allemande du nom de Schizowise, quelques années plus tard, à Mayence, on aurait pu interroger le diable ou le démon possédant cette femme, et lui-même aurait dénoncé les cathares. Bon, alors déjà, j'espère que je n'ai pas besoin d'expliquer que le témoignage d'une femme censée être possédée n'est pas vraiment un argument de poids. Mais surtout, on a un petit peu réétudié cette question depuis une vingtaine d'années, et entre autres, Uwe Brun l'a beaucoup étudié, et en fait, cet exercice est mené par Hildegard de Bingen, certes, mais l'interrogatoire est mené par Edberg de Schönau. Donc savoir qui a utilisé le mot cathare entre Schizowise et possédée ou Edberg, là encore, c'est assez douteux, surtout que ça permet à Edberg, juste après, de faire un nouveau tribunal ecclésiastique à Mayence et de refaire une fournée de bûchers. Donc, voilà. C'est, encore une fois, il y a des intérêts directs et c'est toujours lui qui, finalement, utilise ce mot-là. Alors, le résultat de tout ça... Alors déjà, pour quand même, je tiens à préciser, rien ne dit qu'Edberg est un affabulateur ou un menteur. Il a vraiment allé rencontrer des groupes qu'il estimait, lui, être hérétiques. Alors, bien sûr, sa définition à lui, et il n'a jamais expliqué pourquoi. Vraiment en détail, il leur donnait un nom d'après les textes de Saint-Augustin, et alors en partie pour dénoncer le danger qu'il représentait, en partie parce que c'était sa meilleure pensée de l'époque, et via la vision de sa sœur et du coup Hildegard de Bingen qui a été plus ou moins utilisé à son insu, ce mot cathare s'est répandu, mais en tout cas il n'y a pas de preuve qu'il ait menti, c'est juste sa vision à lui, avec des bits de confirmation qui peuvent justifier ça. Mais rien ne prouve qu'il ait inventé les cathares volontairement. Et dès lors, ce terme va se répandre dans tout l'espace culturel de l'Empire germanique, puisque Cologne et Mayence sont dans cet espace-là, ce qui fait qu'on va régulièrement utiliser le mot cathare comme synonyme d'hérétique. D'ailleurs, en Italie du Nord, des fois, dans certaines villes supposées hérétiques, vous avez alternativement utilisé le mot patarin ou le mot cathare comme des synonymes, ce qui montre bien que l'aspect de l'idéologie derrière ça est assez faible, en fait. Donc, le problème, c'est que le comté de Toulouse, où on voit généralement le cathare, il n'est pas dans l'espace germanique. Donc là, vous voyez le comté de Toulouse en 1180. Donc, comment on peut expliquer que au comté de Toulouse, il soit arrivé ceci. Alors, c'est pas forcément très visible, j'ai l'impression, mais enfin, c'est la prise de Marmande qui a été où les habitants ont été massacrés. Et en fait, donc, la croisade des Albigeois. Pourquoi il y a eu cette croisade dont le comté de Toulouse. Et pourquoi on a parlé de Cata. Alors, tout d'abord, il faut un peu représenter la situation de l'époque. Le XIIe siècle, c'est juste après la réforme grégorienne, on est encore en pleine période de réforme papale et de renforcement du pouvoir papal. Ce que ceci implique concrètement, c'est d'une part que le pape cherche à renforcer son pouvoir et que du coup il y a des dissidences, que d'autre part, en renforçant son pouvoir, la stratégie qui est suivie, c'est le fait de se créer des ennemis à combattre. C'est comme ça qu'on définit ce qu'il faut combattre, donc ça peut être les simoniaques et ça peut être des hérésies plus ou moins bien définies. Et ça amène aussi que la politique de réforme soit plus ou moins importante en fonction du pape qui domine à ce moment-là. Et il y a énormément de groupes religieux qui passent d'hérétiques dénoncés à modèles à suivre pour tous les croyants, ou l'inverse. Juste pour citer deux exemples, à Lyon, on a les Vaudois qui sont donc les disciples de Valdoux ou Valdès, qui est un marchand lyonnais qui s'est dévoué de ses richesses pour prêcher, qui au départ prêche avec l'évêque, avec la permission et la participation de l'évêque de Lyon, et qui est reçu par le pape en tant que et montré comme exemple pour tous les croyants à suivre. Il faut faire comme les Vaudois. Et quelques années plus tard, l'évêque de Lyon meurt. Il est remplacé par un autre évêque, pas forcément moins réformiste, mais en tout cas beaucoup plus jaloux de son pouvoir. Il se fâche avec Pierre Valdo, et la querelle va jusqu'au pape, qui décide de trancher en faveur de l'évêque de Lyon. Les Vaudois sont des anciens hérétiques, leur dogme, pour peu qu'il en y ait bien précis, n'a pas changé entre temps, et ils sont poursuivis par l'Inquisition quand elle est créée, et au XVe siècle, ça en arrive même au point que Vaudois, c'est synonyme de sorcier. A l'inverse, on a les franciscains, qui pendant tout le début, on les accuse régulièrement d'être hérétiques, notamment pour ceux d'Assise. Si vous voulez un peu voir cette situation du départ où on se pose la question de si les franciscains sont ou non hérétiques, il y a le très bon livre d'Umberto Eco, Le nom de la rose, qui en parle très bien, et ça a été adapté en film si vous avez envie de lire, mais voilà. Et finalement, on finit enfin par trancher, on les tranche en mettant des exemples à ce qu'on tranche, des exemples à suivre, et on va même leur confier, avec les dominicains, la domination de l'inquisition. Ils sont passés de potentiel hérétique à profondeur d'hérétique. En finalement très peu de temps, tout ça, c'est en quelques dizaines d'années. Donc, ça déjà, c'est déjà à venir. En plus, le pape combat énormément se fâche énormément avec des seigneurs plutôt importants. Et entre autres, il est en divergence assez importante avec le comte de Toulouse. Ça veut dire que le comte de Toulouse va soutenir plutôt l'empereur contre le pape, par exemple. Il y a ça qui joue aussi. Enfin, le comte de Toulouse, ça se voit un peu sur la carte, c'est un territoire vaste, qui est très riche à l'époque, et qui en plus a un accès sur la mer, donc il est très revendiqué par différentes puissances. C'est en plus un vassal du roi de France officiellement, mais qui est très indépendant finalement, et très remuant. Donc, et en plus, c'est revendiqué par le duc d'Aquitaine, donc vous pouvez voir un peu en rouge, le duché d'Aquitaine, donc il n'y a pas non plus un territoire ridicule, et donc mais ça a toujours resté bien indépendant jusque-là. Donc je passe rapidement là-dessus, mais au XIIe siècle, on a les deux mariages en Aquitaine, d'abord avec le roi de France, puis avec le roi d'Angleterre, et deux tentatives de Louis VII et d'Henri II pour tenter de s'emparer du comté de Toulouse, qui toutes les deux échouent. Mais juste pour dire qu'à ce moment-là, des gens qui ont envie d'avoir une excuse et une raison d'amener une grosse armée dans le comté de Toulouse, il y en a quelques-uns. En plus, à l'intérieur du comté de Toulouse, il y a les Trancavel, qui sont des vassaux du comté de Toulouse eux-mêmes remuants, qui possèdent. Et je pense que pour ceux qui connaissent un peu la croisade albigeoise, c'est des noms qui vont remonter, les villes d'Albi, de Béziers et de Carcassonne. Donc, et dont le comte de Toulouse aimerait bien lui-même se débarrasser. Voilà. Mais des territoires disputés et des disputes entre pape et grand prince, il y en a eu donc, pas mal d'espace à ce moment-là, et tous n'ont pas eu une croisade. Entre heureux, ça aurait été assez embêtant. En fait, il n'y a plus qu'une rumeur d'un midi hérétique qui naisse. Cette rumeur, elle est due à cet homme, Bernard de Clairvaux. Donc, pour le présenter rapidement, c'est un personnage extrêmement important de l'Église du XIIe siècle. Il est abbé de Clairvaux C'est un professeur du monde cistercien, c'est un personnage qui a appelé à la croisade, qui a participé à la fondation des Templiers, et juste après sa mort, il est canonisé. Et c'est un personnage qui a souvent recours à l'invective quand il n'est pas d'accord avec quelqu'un. Si vous voulez un peu enfin, voir l'étendue de la tolérance de ce personnage, il a fait des échanges avec l'abbé Cluny, donc un autre ordre aussi important dont ils sont détachés, dans lequel il accuse les Clunisiens d'idolâtrie, d'adorer les représentations du démon éventuellement. C'est assez violent hein, pour l'époque. Il s'est aussi attaqué à Abélard, le fameux. Et c'est quelqu'un qui ne supporte pas bien, je ne suis pas d'accord avec lui, globalement. Mais c'est quelqu'un qui a énormément d'influence. Et juste avant sa mort, il décide d'aller prêcher le comté de Toulouse, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ordres cisterciens fondés au comté de Toulouse, ils ne sont pas très très bien. Et ça se passe très mal, c'est-à-dire qu'il y a une religiosité différente, une culture différente entre le nord de la France et le comté de Toulouse, et la réaction de Bernard face à la contradiction et autres, c'est d'insulter les gens et éventuellement de les menacer de l'enfer, voire même de menacer de la destruction entière du village. Donc il repart assez bredouille et pas très content de son voyage, et il meurt peu de temps après, et à ce moment-là, peu de temps après sa mort, se déclenche un procès en canonisation, et son hagiographe, du coup, qui va essayer de justifier pourquoi il faut canoniser Bernard de Clairvaux, va parler de ses hauts faits, et donc de son dernier haut fait, qui est la tentative ratée de la conversion de Toulouse. Conversion à l'ordre des cisterciens, bien sûr, mais tout de même. Et donc, il faut justifier pourquoi un aussi grand homme, futur saint, a échoué, et pourquoi il a échoué, parce que ce comté est quand même plein d'hérétiques, et qui refusent de reconnaître leur erreur et d'admettre leur erreur. Alors, cette rumeur va grandir, vous imaginez bien, cette géographie, elle circule dans toute l'Europe occidentale à ce moment-là. En plus de ces termes vagues, il n'y a pas une personne clairement désignée comme hérétique, personne ne se défend. Donc ça se répand très rapidement, et ça va arriver à son appel au comte de Toulouse quand même de purger son comté de l'hérésie, et le comte de Toulouse à ce moment-là réagit très, très rapidement et plutôt de manière intelligente, malgré le sang qui coule, dans le sens où il convoque un concile, il tue une fournée de soi-disant hérétiques, il dit c'est bon, il n'y en a plus, il n'y a plus rien à voir, vous pouvez rentrer chez vous. Sauf que quelques années plus tard, on a Raymond VI de Toulouse, qui se dit que il aimerait quand même bien débarquer Trencavel. Il en a un peu encore à le bol, c'est plusieurs fois qu'il tente de les attaquer et qu'ils se défendent trop bien. Et il décide, en gros, de les accuser d'hérésie. Alors peut-être qu'il avait des raisons que ça, on ignore, mais en tout cas, il les accuse de défendre l'hérésie. Le problème, c'est que pour que ceci soit confirmé, il faut que le pape accepte. Et le pape, il n'est pas en très bon terme avec Raymond VI de Toulouse. Je vais également passer rapidement là-dessus, mais en fait, il envoie Pierre Gassendeau, le fameux légat, avec un message. Hey, mais sauf que avant, toi et ton père, vous avez dit qu'il n'y avait plus d'hérétiques dans votre comté. Vous avez un peu menti, vous avez un peu protégé les aussi. Mais c'est pas grave, on vous pardonne, vous faites pénitence, vous vous désarmez, et on accepte de vous pardonner. Sauf qu'il ne veut pas se désarmer. Je vous rappelle que le roi d'Angleterre et le roi de France attendent que ça pour l'attaquer. Il refuse, Pierre Gassendeau repart fâché avec le comte de Toulouse, et il a signé sur la route. Alors, probablement pas sur l'ordre de Toulouse, mais par des chevaliers qui pensaient bien agir en termes d'intérêt, bien sûr, mais toujours est-il qu'il est assassiné. Bon, la question qui se pose maintenant, parce que je ne vais pas revenir sur le déroulement de la croisade, hein, c'est, on voit un peu ce qui a pu déclencher cette croisade autre qu'une dissidence réelle, mais est-ce une dissidence réelle? Bon, déjà, juste, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je n'ai pas prononcé une seule fois le mot cathare puis je parle de Toulouse. C'est pour une raison très simple, les sources non plus ne le font pas. Il n'y a jamais le mot cathare associé au comté toulousain au Moyen-Âge. La première fois qu'on voit une association entre le comté de Toulouse et les cathares, c'est sous la plume de Carl Schmitt au 19e siècle, ce qui empêche un peu d'en parler. On a bien le terme de bonihomines, mais c'est un terme assez générique, et sinon, généralement, on dit juste que ce sont des hérétiques qui ne sont pas vraiment bien définis, c'est des albigeois, mais c'est juste là où ils vivent, et ça s'arrête là, en fait. Donc, déjà, on ne peut pas vraiment parler de cathares à ce moment-là, puisque les sources ne le disent pas. Ensuite, est-ce qu'il y avait une dissidence au côté de Toulouse? C'est difficile à savoir, mais on n'a pas de sources de l'intérieur, à part le concile convoqué par le comité de Toulouse, oui, qu'on n'a plus, avant 1230, c'est les années où est fondée l'Inquisition, telle qu'on la connaît aujourd'hui, les religions classiques, et déjà avant, elle était beaucoup moins violente. Et c'est là qu'on a des sources bien précises où on parle d'hérétiques qui avouent ou qui dénoncent des hérétiques. Donc déjà, avant 1230, on n'a pas de traces de l'hérésie. En plus, les sources de 1230, c'est les sources inquisitoriales. Donc c'est un peu difficile à prendre au pied de la lettre. Surtout si les sources sont en latin, que les gens de l'époque ne parlent pas latin. Et du coup, c'est bel et bien l'inquisiteur qui a noté dans le témoignage fait par les gens ce qu'il voulait bien noter. Et sans parler de la torture pour avoir des aveux, il y avait simplement la menace. C'est-à-dire que souvent, on a la trace de l'inquisiteur qui dit à l'accusé, écoute, tu as ouf ce que tu sais, t'es pardonné, bon, après une petite pénitence, mais t'es pardonné, ou t'oublies une seule chose, décidée par l'inquisiteur, bien sûr, et dans ce cas-là, on te prend tous tes biens. Vous imaginez bien que la personne en face a très peur et avoue tout un ensemble de choses que l'inquisiteur résume en trois phrases. Donc, à savoir comment il fait le tri là-dedans, c'est vraiment difficile, et on s'est aperçu qu'en fait, les inquisiteurs cherchaient surtout à accuser des personnes déjà préétablies et à tracer des réseaux, en fait. Donc, c'est surtout lié à l'imaginaire inquisiteur plus qu'à ce qui a vraiment été dénoncé par les soi-disant hérétiques. Enfin, on a des sources de dissidence réelle après 1230. Là, pour le coup, on a des actions qui sont menées contre l'Inquisition. Le plus connu, c'est avant le siège de Montségur, où les gens de Montségur ont tué un inquisiteur. C'est quand même une dissidence assez forte, ça. Mais les dissidences sont toutes menées contre l'Inquisition. Jamais contre l'Église dans son ensemble. Il n'y a pas de dogme derrière. Les gens ne se proclament pas cathares, mais hérétiques eux-mêmes. Les hérétiques, on s'en proclame seulement par provocation. Hérétique, ça veut dire celui qui se trompe, en fait. Enfin, celui qui a fait un choix et s'est entendu le mauvais. Donc, quand on se revendique d'être hérétique, c'est bien pour reprendre les mots de l'ennemi, les détourner et les combattre.
Oui, juste avant la conquête des Albigeois, l'épisode à partir de Fontfroide, abbaye cistercienne, les deux moines envoyés par le pape pour les convertir, les gens, tu comment par rapport à tout ça?
Alors, je ne vais pas vraiment travailler dessus pour être honnête, mais c'est il y a toute la rumeur qu'il y avait sur ce sujet-là. Les cisterciens étaient un peu les fers de lance de la réforme grégorienne, et en plus le pape est en dissidence avec le comte de Toulouse et un peu avec ses vassaux, en fait, dans leur ensemble. Il y avait une culture différente et ils n'étaient pas très engagés dans la réforme grégorienne, qui ne valait pas. Et les cisterciens n'étant pas très bien implantés, eux, n'étant pas tous très tolérants, je parle bien de Clairvaux, mais c'est souvent le cas, il y avait souvent cette idée-là de si tu n'étais pas dans notre foi, c'est par exemple que tu te trompes. Même si c'était pas reconnu comme tel, il n'y a pas de. Enfin, je veux dire, parce qu'il y a peut-être, il y avait une dissidence entre groupes religieux, mais il n'y avait pas une dissidence du dogme religieux dans son ensemble, quoi. Qui n'a pas avéré. Il y en a peut-être eu, mais on ne la retrouve pas. Donc, en fait, la théorie qui est défendue actuellement par les historiens qui étudient sur la question de l'hérésie depuis 20 ans environ, c'est que l'Église aurait créé elle-même ce qu'elle voulait combattre. C'est-à-dire qu'elle se serait créé des ennemis en voulant les supprimer, que l'Inquisition, par ses actions, aurait dressé contre elle tout un ensemble de gens qui avant ça, étaient effectivement d'une culture différente, mais n'avaient pas besoin de se rebeller contre l'Église. Pourquoi le terme il est parvenu jusqu'à nous, je vous l'ai dit, c'est Karschmidt qui l'a réutilisé pour l'Occitanie, c'est un historien, Karschmidt, alsacien, mais un historien. D'avant l'histoire en tant que science. C'est un historien de l'époque de Michelet, si vous voulez. Donc, il est sérieux, mais il n'y a pas un examen des sources très, très poussé. Il a été énormément repris, et en fait, c'est dans son influence et l'influence des séides, des gens qui ont suivi après, que les historiens, juste au réexamen global des sources par Moïse Erner et son équipe, se disant, quand ils trouvaient le mot hérétique dans l'endoc, oh, très bien, il dit hérétique parce que c'est un terme vague, mais ça veut dire cathare, en fait. Parce qu'il y avait peu de réexamen global des sources des années 90, en fait. C'est-à-dire, pendant plus d'un siècle, on a imaginé qu'à chaque fois, c'est dans l'autre source qu'il y avait le mot cathare. Donc, depuis qu'il y a un examen total, en fait, on ne le trouve pas. Mais l'installation de cathare dans la pensée globale, elle est due à d'autres choses, la pensée populaire. Donc là je vous démontre cette image parce que sérieux, on dit souvent que les cathares sont végétariens, mais il y a quand même des agneaux cathares. C'est première vue. Voilà, et ça c'est directement issu de la marque Pays Cathare. C'est une marque touristique à la base, créée en 92 par le département de l'Aude. Alors, ça regroupe 900 professionnels, un sentier Qatar. Il y a un passeport défensif Qatar qui intéresse, honnêtement, à part ça, je vous recommande éventuellement de le prendre parce que c'est assez intéressant financièrement et c'est des sites magnifiques. Mais c'est des sites qui ne sont pas du Qatar. Alors, on a des châteaux supposés avoir servi de refuge au Qatar. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails non plus, mais si le château est encore debout, ce n'était pas les Qatars qui l'ont bâti. Il a été détruit par la croisade et reconstruit par les croisés. C'est des châteaux qui sont maintenant qualifiés de châteaux capétiens, en fait. Des châteaux, clairement, d'un mélange de cultures de la France du Nord et de l'Occitanie, d'où l'aspect assez intéressant qu'ils ont, d'ailleurs, pour historien des arts. Mais ce n'est pas des châteaux faits par les Qatars, car pas Kakali. Ceux qui étaient châteaux Qatars à l'époque, il n'en reste pas grand-chose. On a aussi des abbayes, ce qui est assez étonnant, hein, mais c'est parce que c'est censé être les abbayes d'où se sont appuyés les croisés et la région pour convertir les Qatars. En fait, c'est effectivement des abbayes qui ont formé des religieux et des inquisiteurs. Donc, on peut éventuellement y voir un lien. Mais encore une fois, Qatar, c'est exagéré. Donc, le terme n'est pas utilisé à l'époque. Il y a même un musée du qatarisme à Mazamé que je n'ai pas visité, donc je ne vais pas me prononcer dessus, mais en tout cas, qatarisme, vu qu'on est en train d'étudier, qu'on voit bien qu'en fait, ça ne recouvre aucune réalité vraiment, ce mot, c'est embêtant quand même d'en avoir fait un musée. Bon, cette marque-là, elle sert aussi, quand on voit comment elle est présentée par le département de l'Aude lui-même, à avoir toute une défense d'une vision régionaliste, voire identitaire de la région. Parce que, alors, je ne l'ai pas copié, mais si vous allez sur le site de l'Aude, quand ils utilisent leur marque, ils expliquent que c'est un symbole de la tolérance, de l'ouverture d'esprit, de la culture avancée du Midi face au Nord, qui, lui, était beaucoup plus obscurantiste. Et ça a servi encore aujourd'hui, ça sert encore aujourd'hui à expliquer que la différence fondamentale entre le Sud et le Nord, le Sud est tolérant, ouvert, cultivé et intelligent, le Nord, c'est des barbares qui sont venus de tout le monde. Bon, c'est pas si simple que ça, bien sûr, et même si effectivement la croix des Albigeois, ça reste la conquête du Sud par le Nord, pas la question. Mais c'est un peu différent quand même. Alors, avant de parler de ça, il y a aussi une demande il y a quelques temps lancée par le département de l'Aude et le département de l'Ariège pour placer les sites Qatar à l'UNESCO. Et tout l'arrêt, c'est de fonder un comité scientifique pour ça. Et pour aller assez vite, le comité scientifique a eu des vrais scientifiques dedans, hein, c'est pas la question. La demande a été approuvée par Audrey Azoulay en avril 2017, sauf que dans la demande, par rapport à la demande originelle des départements, le mot Qatar n'apparaît pratiquement plus. C'est surtout capétien, ça marquait dedans. Donc bien pour montrer la différence entre ce que met le marketing touristique et ce que disent vraiment les historiens. Le mot Qatar a été abandonné en tour de route. Donc on verra bien ce que donne comme demande. Les châteaux sont effectivement magnifiques, mais ça risque d'être utilisé pour de la propagande pas très jolie, elle, par contre. Donc, ceci-là, je vais vous montrer, c'est un article du Midi Libre qui est sorti en 2016. Voilà, donc le fait de l'évêque de Pamiers avait demandé pardon. Alors, ils disent les Qatars, en fait, c'est pour le massacre de Montségur. Donc, bon. Alors, je me permettrai juste de vous dire que si l'Église a demandé pardon pour tous les massacres qui ont été perpétrés depuis le Moyen-Âge, elle n'a pas fini de demander pardon. Mais, globalement, bon, pourquoi pas. Ce que je voulais montrer, c'est pas pour vraiment ça, c'est que, en fait, l'article du Midi Libre, en l'occurrence, ça reprend tous les poncifs sur les Qatars. Ça rappelle leur dogme et tout ça, et l'autre moitié de l'article est entièrement traité à des prises de position, des points de vue, qui sont uniquement de présidents d'associations d'amateurs, des personnes du patrimoine locaux, qui disent ce qu'ils pensent, mais qui ne sont pas des professionnels et qui, du coup, sont souvent un peu dans le mythe aussi, dans ce qu'on leur raconte. Et de l'autre côté, ce sont des gens qui, en fait, sont des néo-Qatars. C'est-à-dire des gens qui se prétendent aujourd'hui être des partisans d'un qatarisme réformé actuel et qui prennent position, expliquent que c'est le dogme Qatar, que les Qatars n'ont pas besoin de pardon parce qu'ils ne pardonnent pas, parce que c'est supérieur de pardonner, et des choses comme ça. Donc, ils se basent sur des tests dont finiront l'existence pour définir le dogme Qatar de l'époque. Hein. Donc, ce néo-qatarisme, il y a une figure importante, c'est Déodat Rocher, donc 1977 à 1978, là c'est une interview qui maintenant est sur le site de l'INA. Donc c'est une personne assez importante. Alors, C'était lui le président du tribunal de Krasnodari. Et c'est le premier à avoir fait le lien entre les cathares et l'ésotérisme. Donc ça a été plein de séides. On utilise les cathares pour comment s'alimenter sans avoir de problème, pour se soigner aussi. Je ne sais pas comment ça marche, mais à première vue. Et éventuellement pour une spiritualité qui serait transcendante, qui permettrait de faire énormément de choses en lien à l'ésotérisme. Donc il a un peu lancé ça et il a eu une influence assez importante puisqu'il a échangé énormément avec Simone Veil. Alors Simone Veil, il est philosophe proche-marxiste, qui a appelé lors de la Seconde Guerre mondiale à résister à la barbarie nazie comme les cathares avaient résisté au barbarisme même. Voilà, donc il a eu une influence importante. Il a fondé une revue qui se veut une revue d'études, qui est un cahier d'études cathares en 1948. Bon, bien sûr, on étudie les cathares, mais d'un point de vue très théologique et très ésotérique finalement. Et après lui, de nombreux ouvrages, et vous pouvez encore en trouver, je pense, dans le commerce, font le lien entre les cathares et différentes autres philosophies, des pseudo-sciences ou les éthiques, des choses comme ça. Mais surtout, ce qui a été interviewé parmi les livres, c'est les néo-cathares. Alors, je précise tout de suite que les cathares ne veulent pas qu'on les appelle comme ça. Ce n'est pas néo-cathares, c'est des cathares purs. Ils ont retrouvé le dogme originel du 1er siècle. Alors, je ne savais pas qu'il y avait des cathares au 1er siècle, mais ils l'ont retrouvé quand même. Et ils expliquent juste qu'ils adaptent le dogme à aujourd'hui. Donc ça, c'est le catharisme d'aujourd'hui. C'est un groupe animé par Éric Delmas, qui, du coup, effectivement, prône tout un tas de choses, écrit des livres, donne des conférences. Et d'ailleurs, sur ce site, dans la page de Gard, il y a un petit article sur les historiens négationnistes qui osent nier les cathares, en expliquant que c'est une poignée, c'est plus ou moins le consensus scientifique actuel, que c'est contre des preuves tangibles. Ben, j'aimerais bien qu'ils me les montrent, je ne les ai pas vues. Et en expliquant que c'est du. Enfin, en disant le mot négationniste. Alors, ce groupe-là, en France, le site a 800 abonnés. Donc, c'est pas rien, mais c'est pas non plus l'influence énorme. Et ils ont tout un tas de dogmes, soi-disant inspirés des cathares, enfin inspirés de ce qu'on pense savoir des cathares quand on lit les différents livres dessus, qui en fait s'inspirent surtout des hérésies antiques. Et les condamnations qui sont très classiques de l'inquisition à l'époque. Donc il parle de doctrine sur l'habillement, il y a le végétalisme. Il parle aussi de maison cathare, ça, vous pouvez faire du fin de cathare si vous avez envie. Et aussi le mode de vie modeste et tout un tas de choses qui finalement sont plus de l'ordre pour la plupart d'entre elles de la privation extrême qui était le cas des hérésies antiques en fait. Voilà. Alors. Avant de conclure, je vais quand même présenter les arguments pro-cathares, parce qu'il y a des gens qui défendent l'autorisation de cathares et qui utilisent des arguments. Alors, je vais passer très vite, des arguments assez peu valables, mais il faut en parler quand même. Alors déjà, il y a une manière d'attaque ad hominem, ça veut dire que si vous faites... des collègues ont fait un sondage sur les cathares en ligne, ils sont fait traiter d'âne, d'idiote, tout ça. Bon. On a aussi accusé un historien important qui a fait les cathares actuellement, qui est Marc Pegg, d'être d'extrême droite. Je ne sais pas pourquoi, mais en plus rien ne l'indique, mais pour le coup, en plus, je ne vois pas vraiment le rapport. Et on a des comparaisons très sympathiques, donc il y avait des négationnistes dans le cathare d'aujourd'hui, et des fois en expliquant qu'on est un peu comme des fourrissons, en fait. Voilà. Bon, sachant que le travail est quand même un peu différent. Hein. Il y en a qui travaillent sur les sources, d'autres pas. Bon. On a aussi eu droit à des parallèles douteux en expliquant que, oui, mais c'est les procès, d'accord, c'est la vision de la puissance dominante, mais c'est comme les procès d'aujourd'hui ou les procès de la Seconde Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale revient souvent, aucun de la puissance dominante, mais il y a quand même la vision de la personne. Ça s'oublie, on a d'autres, que pour les visions de contemporains, on a d'autres sources, c'est pas le même procès, c'est pas le même fonctionnement. Enfin, les comparaisons entre aujourd'hui et le Moyen-Âge sont souvent vouées à l'échec, quand même. On a aussi des fois l'argument de oui, si les cathares ont existé, la preuve, mon grand-père, ma grand-mère, mon arrière-grand-père étaient de fiers cathares. Ça remonte jamais au 19e siècle, bizarrement, jamais avant Déodat Rocher, et donc avant la base du néo-catharisme. Donc, encore une fois, oui, ils étaient catharisés cathares, mais ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge. Enfin, on a un argument que j'aime beaucoup, un argument très archéologique de feu éteint à la hâte. C'est-à-dire que quand on fait l'archéologie, on retrouve des feux qui ont été éteints un peu rapidement. Et du coup, c'est généralement, l'historien l'utilise pour dire que ça indique un départ précipité. Et certains disent que c'est bien la preuve que des cathares ont fui l'acquisition. Oui, ou n'importe quoi d'autre, qu'ils avaient oublié quelque chose, ils sont partis en vitesse. Enfin, il y a plein de raisons de partir à la hâte, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être hérétique pour être un peu pressé. Alors, il y a quand même des arguments entendables. Déjà, il y a l'argument qu'il faut faire les choses à disposition, et du coup, c'est les choses inquisitoriales, en majorité, à lesquelles il faut faire. Alors, je dis entendable parce que c'est entendable dans l'histoire, il y a à peu près un siècle. Donc c'est entendable, sauf que depuis on commente les sources, on y réfléchit et on croise avec d'autres sources de plus en plus. Et donc aujourd'hui ça ne l'est plus. Mais effectivement il fut un temps où si une source disait quelque chose qu'elle était jugée valable et d'époque et qu'aucune autre source ne contredisait cela explicitement, on la prenait telle qu'elle. Bon, aujourd'hui si on voulait faire de même, il faudrait aussi admettre qu'au XVe siècle il y a une vague de femmes qui se réunissaient pour embrasser les fesses des bouches. C'est les procès inquisitoriaux sur les sorcières, hein, c'était ça. Donc, à moins de admettre ça, on ne peut pas non plus admettre pour les cathares, c'est assez difficile. Donc, encore une fois, ça renseigne sur l'imaginaire inquisition, pas sur la réalité. On a aussi l'argument de certaines sources plus tardives qui sont effectivement des sources de dissidence, voire même des éventuels livres qui effectivement expliquent la dissidence, attaquent l'inquisition, se plaignent du massacre du pays occitan. Mais là encore, c'est des dissidences post-inquisition pour la plupart, et ça rentre bien dans ce dont je parlais sur les dissidences contre l'inquisition. Bon, l'argument qui sont utilisés, c'est oui, mais c'est des dissidences après, il y a quoi en avoir avant. C'est possible, rien n'a mis. Après, il y a aussi la question de mais oui, mais les témoins ne peuvent pas avoir menti, puisqu'ils étaient croyants et qu'ils mentaient devant Dieu. Sauf que, entre la peur, entre les confirmations, entre le fait que aussi, si vous voulez trouver un hérétique au Moyen-Âge, vous allez en trouver un parce que le dogme est très compliqué à s'en prendre, enfin, si on cherche des hérétiques, on les trouve. Et donc du coup, il n'y a pas besoin de dire quelque mensonge, les gens sont pour le part sincères, que ce soit les historiens et tout ça, c'est juste que un témoignage, c'est une preuve très faible, et c'est facile de construire des témoignages dans notre sens. Alors, enfin, il y a eu quelque chose qui a été utilisé, qui n'est pas vraiment un argument, mais que je place ici, qui est en fait fait par la plupart des historiens qui maintenant ne nient plus que le mot cathare ne regroupe rien, mais disent que le mot cathare, il parle aux gens, et donc que c'est mieux que rien. Alors, c'est un argument qui se tient. Mais je rejoindrais la vision de Mark Fegg, qui est que c'est un mot qui est en fait moins bien que rien, parce qu'il est chargé idéologiquement, qu'il est chargé en imaginaire, et du coup, quand on utilise le mot cathare, on a tout de suite l'idée d'une secte construite, puissante, végétarienne, qui a fait un dogme, et en fait, non, on n'a rien dit de tout ça. Donc, juste pour conclure mon exposé, on a en fait surtout. Il y a par exemple une absence d'études scientifiques, historiennes, contradictoires depuis les travaux de l'école de Nice. C'est-à-dire que énormément d'historiens ont eu du mal à accepter ces nouvelles études, mais tous ont ou bien renoncé à publier un travail qui avait des sourcés qui dénonçaient ça, ou bien ont accepté d'admettre qu'ils s'étaient trompés. Donc on est en pleine construction d'un nouveau paradigme qui effectivement n'est pas encore fini, qui n'est pas encore diffusé dans la société, mais qui, je l'espère, le sera rapidement. Et pour les amateurs ou les gens qui sont encore fermement attachés au fait de le nier, il suffit de publier une étude avec des sources. Si vous publiez une étude avec des sources, on les verra. Là, pour le coup, il n'y a rien. On a une explication très simple qui peut justifier la création d'un mot comme le mot cathare et qui peut expliquer qu'il se soit amené jusqu'ici et qu'on ait trouvé des hérétiques qu'on en cherchait. Je préciserai également que si vous définissez un dogme très strict, les gens en sortent. Et il a été dissident, qu'ils soient volontaires ou non, il en a existé, mais ils n'étaient ni organisés en sept, et encore moins en sept cathares, organisés de la Bulgarie jusqu'à l'Occitanie. Ça, c'est un fantasme, né au 19e, au 20e siècle. Merci. C'est ça.